Un très bon début de semaine à vous tous, chers amis. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous aurons droit tout à l'heure, d'ici la prochaine demi-heure probablement, l'occasion de parler à notre journaliste qui est à l'Agence spatiale canadienne en ce moment même pendant la conférence de presse en direct de la Station spatiale internationale avec notre cosmonaute, astronaute David Saint-Jacques qui est en mission là-bas et qui s'adresse à la presse pour la première fois depuis qu'il a quitté la surface de la Terre. Alors effectivement, après une semaine en orbite, il y a plein de questions qui se posent. On a très hâte de l'entendre. C'est une conférence de presse qui est retransmise sur YouTube. Mais allez-y pas, restez avec nous. Vous aurez toute l'information de toute façon tout à l'heure. Dès que Annie va pouvoir nous parler, elle nous transmettra le message de David Saint-Jacques avec sans doute des extraits de cette conférence de presse. C'est quand même un moment assez historique quand même de voir. Moi, ça me fascine à chaque fois de voir que des humains vivent dans l'espace comme ça. David Saint-Jacques est là-bas, ben, un peu comme cobaye. Hein? Ils essayent toutes sortes de choses. Ils servent de cobaye pour voir de quelle façon, entre autres, certains appareils fonctionnent, certaines technologies, mais surtout comment le corps humain s'habitue à vivre comme ça à l'extérieur de la Terre. Nous allons revenir sur Terre parce que je vais vous parler d'argent, de votre argent et surtout des coûts de plus en plus importants, les coûts de transport de plus en plus importants. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu la une du Journal de Montréal la semaine dernière où on faisait un grand état du coût de l'essence et du fait qu'on se faisait un peu avoir parce qu'on paierait l'essence beaucoup plus cher qu'on devrait. Bon, forcément, faut mettre bien sûr la lumière sur cette information-là parce que en fouillant, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça l'histoire. En fait, que le journaliste avait coupé les coins très, très ronds. Il en reste pas moins qu'en fouillant, nous, on s'est rendu compte que le transport, c'était effectivement le deuxième poste le plus important. Pour en discuter, Rémi Leroux, qui est journaliste au magazine Protégez-vous, qui a fait les calculs, qui s'est rendu compte, lui, justement, et c'est un article que vous pourrez lire dans le Protégez-vous du mois de janvier. Bonjour, Rémi.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, le transport, c'est le deuxième coût le plus important avant même la bouffe, avant
l'épicerie.
Même l'épicerie.
Ouais. Ouais, le premier, c'est pour se loger, voilà. Et le deuxième, c'est l'auto. En fait, on évalue grosso modo à 10 000 $ les dépenses annuelles que un ménage québécois moyen dépense pour son automobile, que ce soit les assurances, le coût d'immatriculation, les différentes réparations qu'on fait au courant de l'année, l'usage qu'on en a, l'essence, etc. Donc c'est un poste de dépense qui est extrêmement élevé. Les dépenses moyennes d'alimentation, c'est plutôt autour de 7 000 $ par an pour un ménage québécois moyen. Donc on a vraiment un gros écart. Mais il y a évidemment moyen de faire des économies sur le poste voiture du budget des familles.
Et quand vous dites deuxième plus important, le transport, c'est vraiment juste le transport automobile ou c'est tout transport confondu, incluant le transport collectif?
Non, là, c'est le transport. On parle de transport privé, contrairement à la notion de transport public. Mais donc, le transport public augmente évidemment les coûts pour ceux qui l'utilisent.
Parce que comme Annie Gauthier, mon invitée, qui est porte-parole du CAA Québec, qui a une voiture depuis peu et qui, pour la paix d'esprit, Annie, et aussi qui utilise le transport en commun, tu as comme deux coûts. Tu as le coût du transport véhicule, que bon ta voiture, puis tu as aussi ton transport collectif que tu payes. Donc, tu payes à deux endroits, finalement.
Oui, je paye à deux endroits. En fait, j'ai une voiture depuis très, très, très longtemps. J'en ai toujours une, en fait. Puis je dirais que je l'ai parce que, pour des raisons familiales. Hein, comme beaucoup de personnes, comme moi.
Mais tu viens de la changer, ta voiture.
Ben, je viens de la changer, okay, j'en ai une nouvelle. Bon, ça fait deux ans ou presque. Maintenant, je l'ai. Oui, j'ai acheté la paix d'esprit, c'est vrai. Parce que je ne veux pas avoir à me questionner. Est-ce que c'est la meilleure décision financière? Très certainement que non. Je pourrais probablement faire beaucoup plus de choses avec cet argent-là. Mais ceci étant dit, une fois qu'on sait ça, qu'on sait qu'on... Dans un monde idéal, on ne devrait tout pas avoir de voiture. Il reste que pour plusieurs, c'est encore la solution ultime. Puis oui, ça coûte cher. Oui, il y a un coût. Il y a un coût à la rouler. Il y a un coût à ne pas la rouler. Mais il y a aussi des façons de faire pour tenter d'économiser ou d'optimiser notre investissement. Puis ça, d'ailleurs, c'est à Québec, en donne beaucoup de conseils à cet égard-là. Pour accompagner le consommateur. D'ailleurs, c'est notre rôle, c'est un de nos rôles essentiels là, auprès des gens. Là.
Pierre-Olivier Pinault est professeur à HEC Montréal. Il est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Il n'a pas de voiture. Vous n'avez pas plus depuis la dernière fois qu'on s'est parlé?
Non, pas
toujours pas de voiture, Pierre-Olivier. Vous prenez le transport en commun. Évidemment, c'est vous le plus économe de notre plateau aujourd'hui. Êtes-vous surpris que le deuxième poste d'endettement des ménages, ça soit le transport?
Non, parce que c'est quelque chose qu'on suit beaucoup à la chaire de gestion du secteur de l'énergie. On regarde où est-ce que les gens dépensent de l'argent, mais pour, en énergie. Et là, on voit que l'énergie en transport, c'est un gros poste de dépenses. Et on suit aussi les ventes de voitures, parce que c'est aussi un poste de dépenses extrêmement important, l'achat. Et les tendances sont très déconcertantes, parce qu'on voit que ces 10 dernières années, il y a une explosion des ventes de VUS, de camions légers, et qui coûtent beaucoup plus cher. Donc les Québécois, on le constate, là, s'endettent pour payer plus d'essence à la pompe parce qu'ils achètent des plus gros véhicules. Évidemment, il y a différentes catégories de Québécois. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. C'est un petit peu le danger de tout discours là-dessus. Mais la tendance majeure, c'est vraiment avoir plus de véhicules, des plus gros véhicules et s'endetter davantage pour des véhicules. Et ça, c'est des choix que les consommateurs font. Mais évidemment, il y en a qui en ont besoin de leurs petits véhicules. Et là, ils ne font pas partie de la tendance générale. Mais la tendance générale, elle est à cette grande dépense pour des véhicules et de l'essence.
Puis on a beaucoup parlé depuis les derniers jours à cause de la une du Journal de Montréal. Une plus ou moins ironie, là, d'ailleurs, je pense.
Quant à moi, complètement ironie.
Complètement, oui, je vous ai entendu là-dessus. Vous disiez, en fait, le journaliste a tout à fait compris un peu comment ça marchait. Mais le prix de l'essence a quand même augmenté de façon assez importante, ne serait-ce que depuis les 20 dernières années. Là. J'ai devant moi le prix de l'essence selon les villes de 97 à 2011. Puis on voit que Montréal, sincèrement, là, c'est ici, à Vancouver, puis à Yellowknife, où on paye le plus cher l'essence. Et Montréal, en 1997, pour ceux qui s'en souviennent, on payait 61,9 sous. Ça a déjà été plus bas. En 98, ça a été 56,3 sous le litre. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, il était combien ce matin? Je n'ai pas vérifié encore. Mais
il est 15 environ.
À peu près, mais en 2011, 1,30, quasiment 1,31. Il y avait juste à Vancouver 1,32, puis à Yellowknife, pauvre Yellowknife, 1,33 le litre d'essence, quasiment 1,34.
Mais le prix de l'essence qui est élevé, c'est une chose.
C'est une donnée.
C'est une donnée. Ce que les gens achètent beaucoup dans leur véhicule, c'est un statut social. Alors quand on dit que c'est une dépense de transport, en fait, c'est un petit peu mal présenter les choses parce que pour beaucoup de gens, ils achètent un statut social. Ils achètent une grosse voiture, aussi grosse que celle de leur voisin, pour pouvoir parader et c'est plus flatter leur ego. Et évidemment, il y a certains usages.
Pensez-vous que c'est encore ça? Les gens, ils s'achètent une voiture pour Annie, ils ne semblent pas d'accord.
Ben, vous l'avez dit tantôt, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Absolument.
Il y en a sûrement qui achètent une voiture pour un statut social, mais il y en a beaucoup qui l'achètent pour des questions de quotidien, parce qu'ils en ont besoin d'un point de vue pratique, tout simplement.
Mais si on regarde la publicité et les publicités des véhicules, on est vraiment très, très loin du monde pratique. On est très loin de l'usage l'usage du véhicule. On est dans le rêve, on est dans ce que le statut social, on est dans une projection de soi dans un monde idéalisé où il n'y a jamais d'embouteillage, il n'y a jamais de problème de stationnement, on est sur les montagnes. Et les gens achètent ça. Si les gens n'achetaient pas ça, les publicitaires ne feraient pas ça. Alors, il y a comme un cercle vicieux.
Dans les pubs, il y a effectivement des belles montagnes. En général, il y a un fleuve magnifique et on est tout seul sur la route.
Exactement.
C'est définitivement pas ici.
Ouais. Donc, il reste qu'au Québec, il y a quand même quoi, là, un point, je sais pas combien de quantité de véhicules d'occasion, là. Vous direz bien, on peut bien dire que ça, c'est du marketing, mais il reste qu'il y a plusieurs familles qui ont des voitures d'occasion, qui sont pas nécessairement dernier cri.
Ben, Rémi, d'ailleurs, je vais vous entendre là-dessus parce que vous, ce qui est fascinant, c'est que vous partagez même votre voiture. Vous avez acheté un véhicule d'occasion, puis en plus, vous le prêtez à vos amis quand
ils en ont
c'est
besoin.
Bien de savoir que je peux vous appeler si jamais j'ai besoin d'une voiture.
Tant que vous refaites le plein une fois que vous l'avez utilisé.
Est-ce que les gens le font ou
ils
oublient?
Oui, ils remettent une somme là, ils remettent à 20 ou 30 pièces en fonction de l'usage.
Non, mais tu passes ton auto pour vrai là?
Ouais.
Puis
ouais.
Au niveau des assurances, il n'y a pas de problème?
Non, non, on peut la conduire. Non, en fait, c'est une auto vraiment de base là, qu'on a acheté il y a quelques années à 3 500 $, je crois. C'est une Rondo Kia même pour ne pas la nommer et donc nous on s'en sert très peu en fait donc tant qu'elle stationne devant chez nous quand les amis en ont besoin on leur passe pour une journée, un déménagement, un week-end, une fin de semaine. Si on n'en a pas l'usage je vois pas pourquoi elle stationnerait là et on utilise énormément les transports en commun. Moi je fais tout à vélo ou le transport actif. Donc, moi, je fais tout à vélo 365 jours par an.
Toi, tu habites en ville, Rémi?
Oui,
donc, ta voiture, elle est à parc extension. Elle est garée où?
Dans la cour de la maison.
Ah, tu as une cour.
Oui. Okay. Ouais. Elle ne reste pas sur la rue. Jusqu'à l'an dernier, oui, elle restait sur la rue. Donc, ça aussi, ça prend de temps en temps un ticket parce qu'on oublie de la déplacer. Là, ce n'est plus le cas. Mais en l'occurrence, si elle peut servir, on essaie qu'elle serve effectivement. On sait qu'en général, une voiture est immobilisée, je crois, plus de 90% ou 95% du temps. Donc, en gros, 23 heures sur 24, on ne s'en sert pas d'une auto en moyenne. C'est... Donc, c'est ce qui est quand même une aberration pour le coût que ça représente, en fait.
C'est incroyable. Tu as calculé combien ta voiture te coûtait?
On a évalué, oui, on a essayé d'évaluer un petit peu. C'est sûr qu'en essence, comme on ne s'en sert pas énormément, c'est pas le gros du... ça fait 130, 140 dollars par mois, on va dire. Un petit 60, 70 pièces d'assurance. Plus, si on lisse les dépenses, comme c'est une auto qui a 180 000 km, évidemment, on fait quand même des réparations. Donc, si on met un petit 100 dollars en plus par mois, on va dire, ça fait un bon 250, 300 dollars par mois pour objectivement un usage qui est pas énorme.
Ouais, mais je suis très surprise que tu dises, bah, tu dois savoir, tu travailles au Protégez-vous, là, mais je suis surprise que ta compagnie d'assurance t'ait pas dit, t'es pas chargé un supplément. Moi, je me souviens que quand mon beau-fils avait pas de voiture, puis il conduisait la nôtre, on avait appelé les assurances. Pour le moment, l'assurance avait dit, ah ben non, il faut payer un supplément pour conducteur supplémentaire.
Il faut déclarer. Avec les assurances, il faut tout déclarer parce qu'il pourrait y arriver un sinistre. Puis là, dans quelles circonstances ça s'est produit, et là, ne pas reconnaître.
Mais le ridicule, c'est que j'avais oublié que je payais pour ça. Puis j'ai payé pendant 5 ans parce que j'avais oublié de dire de préciser à l'assureur. Je me suis rendu compte dernièrement que finalement, il était plus d'un... Je me dis, voyons, c'est bien cher. C'est tellement cher, les assurances voitures. Je trouve
mais c'est
t'en
vraiment...
parles dans ton article.
C'est ça, parce
de
que là, ce qui est intéressant avec les assurances, puis ça va souvent aujourd'hui avec l'assurance maison, mais c'est un des postes où on peut évidemment faire des économies. Nous, on a fait une grosse enquête là-dessus. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, la plupart des ménages réussissaient à dealer jusqu'à 30% de réduction d'une prime d'assurance maison auto entre différentes compagnies. Donc, ce qui est quand même vraiment important, ça peut faire des 300, 400 dollars par année de sauvé. Donc là, évidemment, c'est une dépense qu'il va falloir aller chercher. Je veux dire, une économie qu'il va falloir aller chercher en négociant, en appelant, passant peut-être 2-3 soirées dans une semaine pour comparer les prix et puis challenger sa compagnie. Mais il y a moyen.
Oui, il y a moyen, mais comment ça se fait que tu es obligé de négocier? Et qu'à partir du moment où tu commences à négocier avec ta compagnie d'assurance voiture, là, tu peux bénéficier de rabais jusqu'à 30 %. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Moi, ce que ça me dit, c'est qu'on se fait drôlement avoir.
Pierre-Olivier Pinault. On a choisi une économie où on veut que le gouvernement soit moins impliqué dans l'économie, laisse le libre marché. Mais le libre marché, c'est difficile de s'assurer qu'à tout moment, on a vraiment une concurrence parfaite qui nous amène au prix minimum. Alors, ça met beaucoup sur les consommateurs. Ça leur demande beaucoup d'efforts. Et en fait, c'est vrai qu'ils comptent jusqu'à un certain point. Les compagnies comptent sur la paresse ou le manque de temps des consommateurs pour justement en profiter pour augmenter. Personnellement, si on revient au transport, c'est pour ça que personnellement, je fais le choix de ne pas avoir de véhicule parce que je n'ai pas le temps. J'ai pas de temps à passer pour déneiger ma voiture, changer les pneus, immatriculer, payer des tickets. Non, comme une auto, Car2Go est là. Il y a des services de transport en commun, il y a le transport actif. Il y a de plus en plus de plateformes qui existent pour partager les sièges vides qui sont dans les voitures. Donc, ceux qui font le choix d'avoir une voiture et qui l'utilisent, ils auront de plus en plus la possibilité de partager les sièges vides pour le profit d'autres et ça permet de rentabiliser autant pour ceux qui ont leur voiture que ceux qui n'en ont pas et ça décongestionnerait les routes. Donc il y a vraiment des solutions qui vont nous amener à permettre à tout le monde de ne pas avoir besoin de voiture pour se sentir en sécurité.
On va aller à la pause là-dessus, puis j'ai hâte de vous entendre chez auditeurs qui êtes peut-être dans votre voiture en ce moment. Combien dépensez-vous en transport? Transport, votre voiture, votre véhicule, votre 4 roues, votre pick-up, votre F-150, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui en ont un. Et combien vous dépensez aussi en transport collectif ou en transport actif? Transport actif, bien sûr, c'est vélo, marche à pied, patin à roulettes, tout ce que vous voulez. Et dites-moi combien vous y mettez, parce que je pense qu'il faut inclure là-dedans aussi pas seulement les coûts véhicules, mais les coûts transport global. Et dites-moi si ça prend de plus en plus de place dans votre budget jusqu'à être le deuxième poste le plus important après le logement. 514-790-9850. Et ça en ferait partout au Québec. Vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. On parle de coûts de transport, puis je vous demande ce matin, combien dépensez-vous pensez-vous, d'après vous, parce que on le calcule pas tous non plus, là, combien ça nous coûte, puis des fois, on veut peut-être pas le savoir, parce que quand on se met à aligner les coûts, que ça soit l'essence, que ça soit les coûts d'assurance, on en parlait avant la pause, que ça soit le coût du véhicule, la dépréciation, je veux dire, on le sait, on est très conscient du fait que quand on achète un véhicule ou qu'on le loue neuf, dès qu'on sort du concessionnaire, on vient d'avoir une dépréciation importante. Alors, des fois, vaut mieux, enfin, je dis vaut mieux, pour notre sanité personnelle, vaut mieux pas trop le savoir, même si dans les faits, on serait encouragé quand même à mettre des coûts qui s'y rapportent, parce qu'il faut quand même, on n'arrête pas de nous dire qu'on est endetté, que ça va nous prendre des années à rembourser ce qu'on doit. Il faut savoir combien on paye pour les choses, puis réévaluer aussi nos gestes. On a avec nous, plusieurs auditeurs qui veulent intervenir. On commence avec vous, Guylaine.
Oui, bonjour.
L'avez-vous fait le calcul? Combien ça vous coûte le transport?
Ben, en fait, moi, j'ai acheté ma voiture au mois d'avril. Puis depuis le mois d'avril, j'écris tout. À chaque fois que je mets de l'essence, je le prends en dans un petit calepin. Ça me coûte environ 70 $ aux 5 jours. Environ.
Wow, OK.
Ouais. Mais par contre, j'habite à Granby, je travaille à Montréal. Il y a ça. Plus le coût du véhicule qui me coûte environ 200 $ à toutes les deux semaines.
Ouais.
Puis, puisque j'ai changé pour une diesel, pour que ça me coûte moins cher d'essence de transport, ça me coûte 150 $ pour le changement d'huile aux 15 000 km. Mm-hmm. Et ça commence à faire beaucoup de frais.
Ouais. Et donc,
c'est vraiment une grosse dépense.
Est-ce que c'est plus important que ce que vous mettez en alimentation, par exemple?
Ah oui, définitivement.
Ah, ouais.
Oui. En alimentation, ça me coûte environ 125 $ à toutes les semaines. Mais je suis végétarienne, c'est un peu moins cher.
Mm-hmm. Ouais. Mais c'est fou quand on y pense. C'est fou quand on y pense. On dépense plus pour nourrir notre voiture que pour nous nourrir nous-mêmes. Moi, cette image-là, je la trouve forte, là. Merci, Guylaine. Merci beaucoup. Luc, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
Est-ce que vous pensez d'abord à nourrir votre véhicule avant de vous nourrir vous-même?
Non, je me nourris, mais je nourris beaucoup mes véhicules. OK, je veux pas qu'on panique avec ça. J'ai 6 véhicules, Isabelle. J'ai une moto, 2 4-roues, une motoneige. Juste en essence, c'est 500 par mois. En assurance, 150 par mois. Et l'entretien que je fais moi-même. Pas de paiement d'auto parce que j'ai des autos de 10 ans environ. Mais j'ai des autos sport, des autos 4-roues, des autos, un pick-up. J'ai des bébelles.
Mais ça, ces bébelles-là, il y a des pièces à changer, ces bébelles-là?
Ouais. Ah oui, là, mais honnêtement, ça, je ne le calcule pas. Quand ils sont brisés, je les répare moi-même, puis j'assume. Là. Mais j'aime ça. J'encourage le gouvernement. Le gouvernement dit qu'il faut dépenser pour avoir des revenus. Ah, je les encourage, le gouvernement, puis la SAC, là, ils m'aiment beaucoup.
Ben oui, parce que ça fait 5-6 immatriculations de véhicules, ouais. Hein, ça?
J'ai 1 500 $ d'immatriculation par année.
OK. Donc, je sens que vous avez les moyens, Luc, de vous le payer aussi, non?
Je fais quelques travails pour arriver à tout payer ça. Je me plains pas. C'est ma réalité.
Au noir ou...
Non. Déclaré, okay. Isabelle. Et quand même, Isabelle, j'ai un côté environnement. Ma conjointe a une auto électrique. Fait que quand même.
Ah, OK. Ça compense pour les 6 voitures.
Ben oui.
David Saint-Jacques, l'astronaute, vous dirait que vous êtes probablement là, au coup. Là, la mode, c'est de calculer combien de planètes on dépense par personne. Ah. Fait que fou, je dirais, là, roughement comme ça, 4-5 planètes.
Ah. Ben, peut-être.
Ah, merci, Luc. Merci beaucoup. Rachel, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que le coût de transport, c'est un poste important chez vous, Rachel?
Bien sûr, comme beaucoup de gens, mais disons que moi, ma voiture est payée, elle a 6 ans, mais je calcule simplement assurance, bon, etc., essence et tout ça, là. Les enregistrements, je dirais que ça me coûte, et puis toutes les mises à jour de chaque année, les changements de pneus, blabla. Alors, je dirais que c'est plus ou moins 300 $ par mois.
Quand même, puis ça, c'est votre voiture payée, là.
Oui, c'est ça. Si on calcule l'entretien régulier, parce que je vais au garage du concessionnaire, parce que je veux la garder longtemps, puis je connais rien en mécanique. Là.
Ouais.
Alors, c'est pour ça. Maintenant, moi, j'avais une autre couple de commentaires.
Oui, allez-y.
Comme ça, en passant, j'écoutais le monsieur tout à l'heure qui parlait, qui faisait du vélo. Il vit à Montréal, le monsieur, là.
Oui, tout à fait. Non, tout à fait, c'est ma réalité. Je suis un urbain, donc je peux à la fois alterner vélo et transport en commun.
Mais quand on entend, ben prenez le vélo, prenez tout, etc., je suis d'accord là, quand on est en ville. Mais, puis on parlait aussi des gros véhicules. On parle jamais qu'il y a plusieurs familles qui ont 2-3 enfants. Là.
Ouais. Mm-hmm.
Alors, avec des sièges d'auto, etc., c'est pas une petite voiture qui va fonctionner. Donc ça, c'est jamais dit, là, tu sais, que ce serait intéressant de savoir jusqu'à quel point les gens qui achètent des gros véhicules, c'est une question familiale aussi, jusqu'à un certain point. Mm. Alors, et puis c'est ça. Puis je veux simplement soulever que dans les régions, parce que moi, je viens des régions, il n'y a pas de, tu sais, les transports en commun, on oublie ça, là.
Ouais. Puis la dépendance à son propre véhicule, la paix d'esprit dont parlait tout à l'heure Annie, ben vous, c'est presque une nécessité, là, c'est
oui,
ça?
Oui, oui. Ouais. Puis moi, encore là, je vis quand même dans l'environnement de Montréal, mais j'ai de la famille qui vit à l'extérieur. Au Saguenay, un peu partout, il n'y en a pas de transport en commun.
Non,
alors, tout ça. Puis l'autre chose aussi, c'est toute la contestation des routes. On veut des véhicules électriques. Bien, à un moment donné, il va falloir qu'ils roulent aussi, ces véhicules-là, sur des routes. Mm. Puis on conteste tout ça et on dit que c'est très bon, les voitures électriques. Alors, si on en veut de plus en plus, bien, il faut aussi quand même qu'on ait des routes. Et c'est ce qui paye aussi l'essence, etc., les pistes cyclables et compagnie, là.
Merci.
Par le prix de l'essence. Alors, merci. Je ne vais pas prendre plus de temps.
Merci, Rachel. Pierre-Olivier Pinault, vous voulez intervenir?
Oui, les ventes de camions légers, elles ont augmenté de façon assez exponentielle ces dernières années et il n'y a aucun lien avec un boom démographique. Le fait qu'il n'y a pas plus de familles à 3 ou 4 enfants qui expliquerait le fait qu'on a autant de VUS. Il n'y a pas plus de plombiers ou de chasseurs ou d'agriculteurs qui ont besoin de F-150. Il y a des besoins réels pour des pick-up. C'est vrai, mais quand on regarde les ventes de pick-up, ce n'est pas lié à une explosion du nombre de plombiers ou une explosion du nombre de travailleurs de la construction. Ces gens-là en ont, c'est très bien, mais là, il y a d'autres personnes qui en ont pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leurs besoins réels de travail, mais qui sont plus liées à leur ego et puis à leur envie d'avoir un gros véhicule. C'est très bien. Le problème, c'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent, on s'endette et qu'on a des problèmes environnementaux à gérer et que là, on ne s'en va pas dans la bonne direction avec cette tendance.
Mais je pense aussi que les années de travaux par lesquelles on est passé, puis celles qu'il faut encore qu'on supporte, ont eu une influence sur le choix des véhicules aussi. De plus en plus de gens disaient, moi, là, regarde, je ne peux plus avoir une petite voiture ordinaire. Ça me prend un véhicule qui supporte la
sécurité
route.
Aussi. Exactement. Mais on ne remet pas en question le fait qu'on a des problèmes environnementaux, qu'il y a des gros véhicules, que tout coûte plus cher, mais je pense que l'objectif ici, c'est de parler de qu'est-ce qu'on peut faire.
Ouais.
Pour
on va y venir,
réduire nos coûts.
Je pensais que Pierre-Olivier, vous alliez me dire que vous étiez allé à Québec en fin de semaine. Pas en oui. Vélo, puis pas à pied.
Non, mais justement, on était 6 et comme j'avais pas de véhicule, mais on a pu louer une mini fourgonnette qui était parfaite pour ce voyage-là à 6. Si j'avais une voiture, là j'aurais eu un double coût pour me dire, mais là pour amener mes nièces avec nous, comment est-ce qu'on aurait fait? Fait que là, l'avantage de pas avoir de voiture, c'est justement d'avoir une très grande flexibilité. On peut louer le véhicule dont on a besoin pour l'usage dont on a besoin, et c'est de plus en plus facile avec toutes les plateformes d'échange. Mais là, c'était chez un locataire traditionnel.
Combien ça vous a coûté?
169 $ pour louer la mini fourgonnette plus l'essence, une centaine de dollars d'essence.
Pour deux jours?
Pour trois jours.
Trois jours?
Oui, sur trois jours.
Pas si mal, c'est sûr. Il y a Stéphane qui me dit qu'il y a une Honda Fit. Il dit ça pour toute ma famille, 2 enfants, tout est parfait. Il n'y a pas de pick-up. On revient tout de suite après la pause. 514-790-9850. Vous faites le 1-866-790-9850 pour nous dire si vous avez calculé vos coûts de transport, combien dépensez-vous? Est-ce que c'est le deuxième poste le plus important chez vous après, bien sûr, l'habitation, avant l'alimentation? Vous me direz tout de suite après. Alors Alain, on me dit que ça vous coûte cher, vous, en coûts de transport.
Oui, moi je dirais à peu près l'hiver 1500 puis l'été 1800.
Par quoi?
Par mois.
Par mois?
Oui.
1500 puis 1800. Aïe, aïe.
Oui, parce que j'ai un véhicule d'été, puis j'ai un véhicule, mettons, comme un Bazou l'hiver, et puis j'ai une moto en plus. Mais juste le véhicule, j'ai comme un véhicule neuf, comme un, mettons, un convertible.
Ah oui.
C'est sûr que là, c'est des coûts, là, c'est astronomique. Là.
Mais quand vous regardez, donc vous dites 6 mois à 1500$, 6 mois à 1800$, ça fait beaucoup de dollars, ça, à la fin de l'année?
Ça fait beaucoup d'argent, oui. Ça fait beaucoup d'argent qui s'en va dans le pétrole.
Exactement.
Et surtout dans les paiements, surtout.
Et ça vous ennuie pas?
C'est une passion. Ça, le véhicule, c'est une passion. C'est comme tous ceux qui ont des véhicules sport et puis qui ont des véhicules qui aiment conduire, mettons, tout l'été. C'est sûr que ça coûte cher, mais...
C'est quasiment 20 000 piastres, là.
Je ne sors pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais rien. En fin de compte, il y en a qui fument, qui mouettent, qui font tout, prennent la drogue, prennent tout, moi, je prends rien de tout ça. Mon argent, je la mets là-dedans.
20 000.
Au moins.
Wow.
À peu près.
Ouais. Et est-ce que c'est une pression sur votre budget?
On peut dire que c'est comme la moitié de mon budget.
La moitié?
Oui, à peu près, mettons, une petite affaire moins que la moitié. On pourrait dire 40%.
De votre budget, ça veut dire... Hey, Alain, je sais pas, là, mais voulez-vous que je vous book un petit meeting avec Pierre-Yves McSween? Je le connais, il passe des fois ici.
Non, c'est bon.
Merci beaucoup de votre franchise. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Pinault.
On s'entend qu'ici, ce n'est pas des coûts en transport. Ça, c'est des coûts en mode de vie, en choix de hobby. C'est un loisir.
Oui. Il y a un peu tout ça là-dedans. Ouais.
C'est comme l'auditeur qui avait six voitures. C'est pas des coûts en transport, c'est un coût en loisir. Et son loisir, c'est d'avoir des véhicules. Donc, en fait, on fait beaucoup de il y a beaucoup de mélanges.
Là, il y a deux véhicules, lui, quand même. Il y en a deux. Un pour l'été, un pour l'hiver. C'est quand même juste deux véhicules.
Mais il le disait, là, que c'était une passion, que c'était
vraiment... C'est ça, il faut remettre les choses en perspective. Pour monsieur, madame, tout le monde, le commun, les mortels, généralement, on a une voiture ou deux par ménage, puis c'est pour aller travailler, aller faire l'épicerie, aller conduire les enfants.
Beaucoup de Québécois ont deux voitures.
Oui, beaucoup.
Chacun a sa voiture. Là.
Beaucoup.
Parce que tu ne vas pas forcément au même endroit. C'est compliqué.
Puis des fois, les enfants en ont une aussi parce qu'ils ont l'âge de conduire avant l'université puis c'est plus facile d'y aller en voiture pour X raisons. Bon, je ne juge pas, là, mais il reste que ça prend de la place. Des fois, c'est essentiel. D'autres fois, peut-être pas. Mais une fois qu'on s'est dit ça, là, qu'on le sait qu'on a une voiture, qu'il faut la payer, bien, il y a des choix à faire. Puis il y a des économies qui peuvent être... si on doit avoir une voiture. Et là, l'assurance est un excellent exemple. Magasiner son assurance, on doit le faire à chaque année. Puis à chaque année, on est en mesure d'aller généralement chercher des économies. L'essence, c'est la même chose. Pourquoi attendre à chaque fois que le réservoir soit complètement vide? Vous pouvez y aller si vous la voyez à meilleur prix, vous en mettez pour un certain montant. Puis vous y retournerez quand l'essence sera un prix que vous pensez plus acceptable. On n'est pas obligé de à chaque fois faire un plein complet. On peut en mettre pour ses besoins du moment. L'entretien de la voiture...
Parce qu'on a eu ça.
Ben, je sais. Mais l'entretien de la voiture, vous pouvez choisir votre atelier mécanique. Vous n'êtes pas obligé d'aller au concessionnaire où vous l'avez acheté si c'est une neuve. Vous pouvez choisir la personne de confiance. Puis... tu sais, entretien régulier coûte moins cher que d'y aller
garage,
juste quand
puis personne de confiance dans la même phrase.
Il y en a. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Non, c'est sûr.
Mais tu sais, quand on fait de l'entretien régulier, ça nous coûte moins cher que quand on y va, quand là, c'est la fin du monde puis on est obligé de tout refaire. Parce que quand vous faites un entretien régulier, souvent, vous pouvez voir les problèmes venir d'avance.
Ouais.
Vous pouvez probablement en planifier quelques-uns.
J'ai Guy qui dit « Le discours anti-pick-up est pas honnête, truffé de fausses vérités. Les pick-up d'aujourd'hui, ça c'est pour Pierre-Olivier Pinault, consomment aux alentours de 10 litres au 100. On peut y asseoir 6 personnes, tirer une remorque au besoin, l'utiliser pour des Renault. Il dit « J'ai une Kia Rio 5 sous-compact à Hayon. La consommation était de 8 litres au 100. Un Highlander hybride consomme 9,5 litres au 100, comporte des pièces mécaniques usuelles en plus du système hybride. » Alors, où est l'économie environnementale? En fait, il montre que... un Ram, par exemple, évidemment, il dit, bon, lorsque j'ai changé mon Ram 1500 pour un Leaf, un achat neuf me coûtait beaucoup plus que de conserver mon Ram malgré sa consommation de 20 litres au 100. 45 000 pour une sous-compact. Et bon, il fait...
Il y a beaucoup de... Les nouveaux pick-up et les nouveaux VUS sont beaucoup plus économes en essence, et c'est vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui, avant, avaient une voiture, et là, se disent, ben, ils vont chez le concessionnaire, leur concessionnaire leur offre un VUS qui consomme 2 à 3 litres de plus au 100.
Ouais.
Et là, les gens se disent, ben, c'est la même consommation que mon ancienne voiture. Donc, au lieu de faire l'économie d'essence et de prendre un véhicule comme une Fit ou une Chevrolet Cruze qui consomme du 7 litres au 100, ils vont faire le pick-up ou le VUS qui consomme du 9, 10.
C'est pas si pire, finalement.
C'est pas si pire. Mais là, on est dans un monde où on devrait réduire notre consommation d'essence. Et là, on fait le choix de la maintenir. Et dans les faits, les ventes d'essence, elles augmentent au Québec. Les tendances sont très, très claires. Depuis 15 ans, on vend plus d'essence chaque année. Alors, on ne va pas dans la bonne direction. Pour 2030, le gouvernement dit qu'il faut réduire de 40% notre consommation de produits pétroliers. Tout ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Comment est-ce qu'on fait les choses? Et là, collectivement, et individuellement, on ne fait pas les bons choix.
Ça, c'est un autre débat, par exemple.
Ben, c'est connexe quand même. Là.
Ben, c'est connexe, mais là, on veut parler comment on fait.
Il faut que tu poses la question. Oui.
Comment on fait pour économiser? Est-ce qu'on a un problème de la nature dont M. Pinault parle? Oui, définitivement. Puis il faut changer nos habitudes, il n'y a pas de doute là-dessus.
Et toi, tu dis au quotidien comment on fait?
Mais là, là, aujourd'hui, là.
Ouais.
Pas dans, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Dans 20 ans, ça va être d'autres choses, mais aujourd'hui.
On va justement. Quelqu'un qui serait bon pour nous parler, pour répondre à cette question, c'est David Saint-Jacques, parce qu'il est dans l'espace en ce moment et il a une vue assez exceptionnelle de la planète Terre et probablement de ce qui s'y passe là où il est, sur la Station spatiale internationale. Annie Guillemettre, notre envoyée à Saint-Hubert. C'est moins loin, Annie, quand même. Moins dangereux.
Annie, tu
as pu assister là, depuis la dernière demi-heure à la conférence de presse donc de la NASA. L'Agence spatiale canadienne permet donc cette conversation avec notre astronaute là-bas, David Saint-Jacques, qui, pour la première fois depuis qu'il y est, parle un peu de son expérience. Je retiens, c'est son premier lever de soleil qui a généré chez lui une émotion incroyable, a-t-il dit.
Ah oui, son premier lever de soleil, il dit qu'il pourra jamais oublier ça. Il dit, écoutez, on en voit plein, on voit aussi plein d'images de planète bleue, sauf que quand on le voit en vrai et qu'elle est devant nous, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable, c'est quelque chose pour lui là qui l'a vraiment, vraiment marqué. Et ce matin, c'est drôle parce qu'on naviguait, on avait 20 minutes de questions, nous étions peut-être une douzaine de journalistes à vouloir lui parler, donc ça roulait très rapidement, mais on naviguait vraiment d'une question à l'autre entre le David Saint-Jacques impressionné, qui a gardé son cœur d'enfant, qui nous parle du toutou que ses enfants lui ont donné, qui flotte dans les airs. C'est le deuxième objet qu'il a vu flotter après son stylo. Et il est encore impressionné de ça. Et aussi le David Saint-Jacques qui nous parle de tout ce qu'il va faire au cours des prochains mois et comment les prochaines semaines seront cruciales. Parce que là, il est encore en adaptation. Vous savez, une semaine à la Station spatiale internationale, on est loin d'une semaine en vacances à Cuba. Là.
C'est
très court. Et pendant cette période-là, il a la chance, entre guillemets, de prendre le relais des gens qui étaient là avant lui. Donc là, on lui explique le fonctionnement de la station spatiale, tout ce qu'il y a à faire. Il dit, il y a beaucoup de choses qu'on a pratiquées, comme le décollage, par exemple. Il dit, on entre dans la capsule pour partir, pour décoller. Il dit, on l'a fait des dizaines de fois. Il dit, quand on commence à se faire brasser à l'intérieur, ben là, ça change. On comprend qu'on n'est plus à l'entraînement et que c'est vrai. Et c'est un peu le sentiment qu'il ressent présentement pendant qu'il est avec ses collègues de partout. Et donc, il est vraiment en adaptation encore. Il sera pendant plusieurs semaines. On lui a bien sûr demandé, mais qu'est-ce qu'il va faire pendant les prochaines semaines? On entend toujours parler de faire avancer la science humaine. Et il a même parlé d'expérience de psychologie. Et il a aussi parlé de quelque chose de très, très, très pratico-pratique, et ça pour plusieurs de nos auditeurs, la télémédecine. On peut peut-être l'écouter là-dessus, je pense qu'on a l'extrait.
Mm-hmm. Moi, avant d'être astronaute, j'étais médecin de famille dans une région éloignée, donc je comprends très bien la pertinence de cet aspect-là de la recherche spatiale. Donc, de marier les bénéfices de l'aide médicale aux astronautes avec les bénéfices de l'aide médicale aux gens qui habitent en région éloignée. Ça, il y a des expériences supportées par la Nation canadienne qui vont aider à développer donc l'art, si on veut, de la télémédecine.
C'est une bonne place pour faire ça, la Station spatiale internationale. On peut considérer que c'est une région éloignée.
Oui, on peut considérer que le groupe de médecine familiale le plus proche est assez loin, merci.
Ouais.
Et donc, ils en auront besoin au cours des prochains mois. Et il a dit aussi qu'il était aussi en adaptation au point de vue corporel. Il a dit, vous entendez, je suis congestionné, c'est normal, le sang circule pas bien à l'intérieur de mon corps et ça va prendre plusieurs semaines avant que je retrouve une capacité là, physique pleine et entière. Donc, c'est vraiment un long voyage. On peut dire que ça a bien commencé. Il avait l'air en forme, quand même très, très en forme et surtout bien de bonne humeur ce matin. Il s'est amusé à jouer avec son micro et à nous faire des petites figures, bien sûr, avec le vide, n'est-ce pas, qu'il y a à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Il dit que ça aussi, c'est assez particulier. Il dit, on a beau le pratiquer, on a beau faire des simulations. Il dit, quand on se retrouve dans les airs, on ne sait plus où est la gauche, la droite, en haut, en bas. Il dit, notre cerveau est complètement mêlé. C'est très, très difficile, mais bien sûr, il adore ça et il va continuer à nous parler comme ça au cours de sa mission qui doit durer, on doit dire, là, quand même plus de 6 mois.
Oui, c'est d'ailleurs la plus longue mission d'un astronaute canadien dans l'espace, à la Station spatiale internationale. Est-ce qu'il a dit quand serait le prochain rendez-vous, Annie?
On n'a pas encore de prochain rendez-vous, mais on compte sur l'Agence spatiale canadienne pour nous faire signe.
Oui, ben c'est vraiment fascinant de l'entendre raconter tout ça. Là. Franchement, c'est très, très, très important qu'il y ait cet effort de transmettre l'information. Parce que là, on parle justement, nous ici, merci beaucoup Annie, hein? Merci. On parle justement, nous tous ensemble ce matin, de notre consommation d'essence, nos coûts de transport. Je veux dire, il y a un lien direct avec ce que vit David Saint-Jacques là-bas. Je suis contente de voir que la planète bleue est toujours bleue et non pas brune. Mais il voit aussi sans doute beaucoup de choses qu'on peut voir d'ailleurs sur des photos satellites. Il y a des journées où la planète est un peu embuée. On va revenir avec vos commentaires et des outils. Hein? Annie, tiens vraiment, Annie Gauthier va nous dire quoi faire si on veut baisser un peu nos coûts de transport. À tout de suite tout le monde. Bon, on va vous donner des trucs pour essayer de réduire un peu les coûts de transport. Et on va commencer par Mario, parce que Mario est un auditeur qui a fait l'effort et qui a réussi à le faire, à réduire un peu son budget de transport. Bonjour Mario.
Bonjour.
Comment vous avez fait ça?
Ben, j'avais un RAM 2013 1500 5.7 MI.
Ouais.
Je faisais dans 12 et 14 litres au 100 en faisant attention, en faisant pas trop sur le gaz. Puis ouais. J'ai décidé de passer à un Camry hybride récent. 6 mois de ça. J'ai passé de 500 $ par mois d'essence à peu près pour le même millage, là, à peu près 35 000 km par année.
Mais c'est pas la même utilisation. Est-ce que vous faites la même chose que vous faisiez avec votre RAM?
Ben, avec la RAM, j'avais la roulotte que j'ai plus maintenant, mais voilà. Quand même, je le payais pareil, cette affaire-là. Quand la roulotte, je l'utilisais pas, je payais quand même l'essence dans le RAM. Mais là, j'ai passé à l'hybride 2018 Camry qui me coûte à peu près 175 $ par mois. Fait que c'est une bonne économie d'essence de 500 à 175 $. Mais j'ai aussi fait le choix de m'en aller en région parce que j'aurais pu garder le RAM puis rester à Montréal.
Mm-hmm.
Et puis avoir moins d'utilisation. Mais il y a un choix à faire là-dedans. Pour moi, le budget, c'est un tout. Hein. T'as l'essence, t'as l'habitation, t'as tout ça qui rentre en ligne de compte.
Tout à fait,
tout à fait. J'ai fait le choix de m'en aller dans l'hybride, hyper satisfait. Entre 5 et 6 litres au 100 versus 12 et 13. Je suis hyper content.
Ben merci beaucoup Mario. Mais dans ce que Mario nous dit, il y a toute la notion dont parlait Pierre-Olivier Pienaud de choix. Parce que là, il a même déménagé, de ce que je comprends. Là.
C'est sûr qu'on a des tendances à l'étalement urbain. Alors, ouais. Les gens veulent avoir leur maison unifamiliale, souvent une piscine. Et là, c'est sûr que si on veut le faire en ville, ben, c'est beaucoup plus cher. Alors, on va en région. Mais ça coûte plus cher et on s'enchaîne. Et un calcul que les gens ne font pas, puis on avait fait une étude avec un collègue, Luc Gagnon, il y a quelques années, sur le coût. Parce que ce que les gens disent, ça coûte moins cher d'habiter en banlieue pour acheter la maison, mais ils oublient de compter que ça prend une deuxième voiture et que cette deuxième voiture, sur les 20 ans, si on l'amortit avec tous les paiements mensuels, ben ça correspond grosso modo au surcoût qu'une maison à Montréal aurait coûté. Mais là, c'est sûr que les institutions financières, elles ne prêtent pas de la même façon. C'est facile d'avoir un prêt auto, c'est très difficile d'avoir un prêt habitation. Et donc là, on a des problèmes, mais les gens ne font pas le calcul toujours non plus.
Il nous reste 2 minutes, Annie et Rémi, des trucs donc pour essayer de réduire un peu son coût de transport.
Éco-conduite, on y pense peut-être pas, mais la façon dont on conduit peut nous aider à faire des économies sur l'essence. Hein. Gardez des distances, laissez-vous sur votre aire d'aller, arrêtez de trop freiner aussi. Bien, vous freinez quand c'est le temps, évidemment, mais cette façon de conduire-là peut nous aider beaucoup. Puis, souvent, on loue, mais des fois, acheter pourrait être une meilleure solution pour nous, plus économique en
public. Parce qu'on se pose souvent
la
question.
Pour les intérêts. La période sur laquelle on va payer aussi. Mais il faut voir quelle est notre utilisation. Les garanties prolongées, ce n'est pas toujours nécessaire non plus. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on a besoin avant d'acheter.
Rémi?
Une autre option, si effectivement on travaille en ville ou en région, c'est le télétravail. Et puis, il y a de plus en plus d'entreprises qui le permettent. Et ça, rester une journée ou deux par semaine à la maison pour travailler, ça évite de prendre son auto. Et si on le fait de façon collective, je veux dire, ce n'est pas une solution individuelle, mais si on le fait à l'échelle d'une société, ça permet aussi de réduire le nombre de voitures sur les routes et dans des grandes régions urbaines, c'est évidemment du gain sur la pollution, sur tout bénéfice.
Je rappelle que le 1er janvier 2019, donc, le nouveau magazine Protégez-vous vous donnera des trucs pour économiser, c'est un article de Rémi Leroux, au moins 2 000 $ cette année, Rémi?
Oui, mais pas uniquement sur le... Donc, c'est vraiment ce télécom, assurance, auto, épicerie. Donc, on est repassé à travers toutes nos enquêtes pour essayer de trouver là où c'est le plus payant de faire et comment faire pour faire des économies et sauver au moins 2 000 $ sur une année.
Incroyable. Et vous rappelez là-dedans qu'à peu près 17 % des Québécois déclarent qu'ils seraient incapables de trouver 2000 $ pour parer à une urgence. Donc, il y a urgence de réduire un peu nos dépenses. Merci beaucoup. On vous recevra en début d'année, tiens, pour revoir tout ça. Merci beaucoup, Rémi Leroux. Merci Annie Gauthier du CA. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie, HEC Montréal. On se retrouve tout de suite après les nouvelles. Restez là, tout le monde.